Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir aux auditeurs de Radio Espérance. Alors ce soir, je voudrais effectivement méditer un peu sur la visitation. Méditer sur la visitation aujourd'hui, en ce jour de solennité pour ce monastère. Honorer la Vierge Marie en cette fin du mois qui lui est consacré. Et entrer avec elle dans le mois du Sacré-Cœur, le mois de juin. Tel est le but de cet enseignement. Notre perspective, c'est toujours l'union du cœur de Jésus et du cœur de Marie, union indissoluble. Et nous explorerons donc surtout certaines richesses bibliques qui semble être comme récapitulé dans cet épisode important de la visitation. Et c'est aussi une manière d'entrer sous le regard de Marie dans cette exploration que je vous proposerai pour ceux qui vont suivre donc le Triduum à partir de demain, autour du premier vendredi du mois, les enseignements que je vous proposerai donc sur le cœur de Jésus dans l'Écriture sainte. Et là, Marie est vraiment celle qui peut nous y introduire, la femme de la parole et de la parole incarnée. Donc, il y a plusieurs aspects dans l'épisode de la visitation, plusieurs thématiques, dirons-nous, bibliques et aussi forcément théologiques. La première que je voudrais souligner a trait justement au mystère d'Israël, peuple élu, et de l'Église. Et de l'union des deux à la fin des temps, selon ce que dit l'Épître aux Romains. Au chapitre 11, saint Paul nous dit qu'à la fin des temps, quand Israël reconnaîtra le Christ, alors l'Israël sera total. L'Israël, ce sera donc l'Israël historique et l'Israël adopté, qui est donc l'immense multitude des nations, formant l'unique Église, l'unique corps du Christ, l'Israël total. Et si je le fais, je le rappelle, au risque même de me répéter, que dans cette chapelle, il y a eu au XIXe siècle des périodes de grande ferveur pour prier pour l'illumination d'Israël, dont est encore témoin cette fameuse lampe d'Israël qu'on voit donc juste en face de la chasse de Marguerite Marie et tout près de l'autel de Saint-Joseph, mais que je ne décrirai pas aujourd'hui. Pour entrer dans cette thématique par rapport à la visitation et par rapport à Israël et l'Église, je voudrais citer un commentaire du Cantique des Cantiques de saint Bernard, le génial commentateur du Cantique des Cantiques. Il commente ce passage du Cantique, chapitre 3. « Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. » Je me lèverai donc et parcourrai la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché mais ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville, avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et ne le lâcherai point, que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alors rappelons tout d'abord que pour la tradition juive, le Cantique des Cantiques est symbole de la relation et du dialogue entre Dieu, qui est le bien-aimé, et Israël, son peuple, la bien-aimée. Probablement le plus beau des poèmes mystiques, inspirés. Le Cantique exprime l'amour réciproque du bien-aimé et de la bien-aimée en termes nuptials. Les deux protagonistes se cherchent, se trouvent, se cherchent à nouveau, aspirent à l'union. Puis il y a évolution d'interprétation dans la tradition chrétienne. Jésus, c'est lui qui va devenir le bien-aimé, symboliquement. Et l'Église, son épouse mystique, sera la bien-aimée. Parfois, c'est aussi l'âme chrétienne aspirant à l'union avec son divin époux qui est désignée par la bien-aimée. Alors, au IIe siècle, saint Bernard, le commentateur génial du Cantique, pour lui, il s'agit bien de l'Église, ici. La bien-aimée qui dit « J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, finalement je l'ai trouvé ». Il s'agit bien de l'Église et de son Seigneur, particulièrement donc dans tout ce passage cité. Mais il intègre le mystère d'Israël dans son interprétation. Alors il dira tout d'abord, à propos des paroles, je les saisis et ne le lâcherai point, qu'elles expriment l'étreinte eucharistique. L'Église tient Jésus par l'Eucharistie, nous dit saint Bernard, et Jésus tient l'Église par l'Eucharistie. C'est une étreinte qui est éternelle. Son interprétation de la suite du verset rejoint maintenant ce que nous avons souvent réfléchi ici sur Israël, peuple élu, et sur sa vocation ultime, ultime, à savoir qu'un jour il reconnaîtra le Christ. Donc pour saint Bernard, la bien-aimée, qui est l'Église, épouse, elle veut faire entrer le bien-aimé dans la maison de sa mère. Je ne le lâcherai point que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère. Or, qui est la mère de l'Église, se demande saint Bernard, sinon la synagogue, Israël. L'Église est fille d'Israël. Et pour saint Bernard, la charité de l'épouse, Église, est telle qu'elle ne veut pas garder le bien-aimé, Jésus, que pour elle, elle aspire à le faire reconnaître par sa mère, le peuple de la première alliance. Et donc, elle veut amener Jésus non seulement dans la maison de sa mère, mais, nous dit saint Bernard, citant le Cantique, jusque dans la chambre de celle qui m'a conçue. La chambre qui est le lieu de la plus grande intimité, intimité conjugale. De sorte que, conclut saint Bernard, au terme de l'histoire, il y aura un seul époux, Jésus, et une seule épouse, Israël et l'Église, à jamais unis. Donc ce commentaire qui est magnifique, évidemment, nous parle de l'accomplissement, de ce que saint Paul nous dit, au terme Israël reconnaîtra, alors tout Israël sera sauvé, sera accompli. Pourquoi je dis cela maintenant par rapport à l'épisode de la visitation? C'est que la méditation de saint Bernard nous conduit tout naturellement à orienter notre regard vers celle qui est la bien-aimée par excellence, la Vierge Marie. Et alors nous faisons le lien entre le commentaire de saint Bernard sur l'épouse qui conduit son bien-aimé dans la maison de sa mère et l'épisode de la visitation de la Sainte Vierge. Dans cet épisode, Marie représente véritablement l'Église qui porte son Seigneur en son sein, qui l'étreint en quelque sorte, qui ne le lâche pas, et elle le conduit vers sa vieille cousine Élisabeth, laquelle symbolise ici pour nous la synagogue, le premier Israël, momentanément stérile, puis totalement renouvelé dans l'allégresse de la venue de l'époux. Donc en profonde consonance avec ce qui s'est passé ici au XIXe siècle, avec une population catholique ici et deux frères juifs jumeaux devenus catholiques et prêtres, les frères Lehmann, on a beaucoup prié ici pour l'illumination d'Israël, et bien ça s'inscrit profondément dans le mystère de la visitation, justement. Maintenant nous allons voire d'autres thématiques. Je voudrais signaler d'abord une dimension de l'union des cœurs de Jésus et de Marie. Il y a une alliance très étroite, indissoluble, du cœur de Jésus à celui immaculé de Marie. Et cette alliance, cette union, se laisse déchiffrer tout au long des mystères successifs que le Rédempteur va parcourir au cours de sa vie terrestre. Le nouvel Adam, en effet, et là nous faisons toujours notre exploration biblique, le nouvel Adam, unique médiateur souverain, a voulu, par grâce, avoir besoin de la présence et de la collaboration de sa mère. Ou, pour être bibliquement plus exact, le nouvel Adam a voulu avoir besoin de la présence et de la collaboration de la femme. Saint Jean dit toujours, quand Jésus s'adresse à Marie, il ne dit pas mère, il dit femme, aussi bien à Cana qu'à la croix. Et puis Saint Jean, qui est aussi l'auteur de l'Apocalypse, nous parle de la femme revêtue du soleil. Alors donc, il est l'unique médiateur et il exerce une souveraineté absolue. Et en même temps, c'est ça le paradoxe, une dépendance consentie et désirée. Dépendance radicale, naturellement, lors du séjour du Verbe incarné dans le sein de sa mère et durant toute la petite enfance. Donc je dirais, ce paradoxe, souveraineté et dépendance. Et cela commence dès l'Annonciation. Le Verbe divin, souverain maître, a voulu être dépendant du consentement de la femme pour entrer dans le monde. Le fiat de Marie fait déjà d'elle la porte du ciel, qui est un de ses titres. Le ciel s'ouvre pour laisser descendre le Sauveur, le Juste. Alors là, nous avons ce grand théologien qui était Don Marmion, père abbé bénédictin de l'abbaye de Maretsu, mort en 1923. Qui nous dit, il a toujours une pédagogie extrêmement claire et limpide, Jésus comme homme dépend de Marie, mais comme Verbe éternel, il lui est antérieur. Et alors surtout les magnifiques paroles d'une hymne mariale que nos sœurs connaissent sûrement, qui est dans le bréviaire, et dont je dis juste l'extrait. Voici l'aurore avant le jour, voici la mère virginale, la femme promise au début des âges, elle a bâti sa demeure dans les vouloirs du Père, et l'hymne se termine ainsi, qui exprime bien cette sorte de paradoxe de dépendance et d'antériorité en même temps. Le sang du Christ la rachète, mais elle en est la source. C'est bien le sang du Christ qui la rachète, mais ce sang a sa source dans son humanité à elle. C'est une hymne pour la fête de l'Immaculée Conception. Alors donc, cette souveraineté, cette dépendance sont particulièrement visibles, enfin perceptibles, dans l'épisode, bien sûr, de la Visitation. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Au moment de la Visitation, Jésus est encore dans le sein de Marie, et donc radicalement dépendant d'elle. Et pourtant, à la lumière de ce paradoxe que je viens d'évoquer, on comprend aussi que c'est lui qui gouverne toute chose. Il est dépendant, mais c'est lui qui gouverne. Marie, certes, agit avec toute la liberté et la spontanéité de son cœur immaculé, mais c'est le cœur sacerdotal ardent de son fils qui est moteur, nous pouvons dire. Là, je cite maintenant des paroles très éclairantes et inspirées de Charles de Foucault, qui s'adresse à propos de la Visitation à la Vierge Marie directement. « Ô ma mère, c'est à la fois une de vos fêtes et une des fêtes de Jésus aujourd'hui. Mais c'est plus encore la fête de notre Seigneur, car c'est lui qui agit en vous et par vous. La Visitation, c'est la charité du Christ vous pressant. C'est Jésus qui, à peine est-il entré en vous, il a soif de faire d'autres saints et d'autres heureux. Par l'Annonciation, il s'est manifesté et donné à vous. Il vous a sanctifié merveilleusement. Cela ne lui suffit pas. Dans son amour pour les hommes, il veut tout de suite se manifester et se donner par vous à d'autres. Il veut en sanctifier d'autres et il se fait porter par vous chez Jean, Jean le précurseur. » Telles sont les paroles donc de Charles de Foucault. Donc en effet, la charité ardente et la passion pour le salut des hommes qui remplissent le cœur de Jésus, grand prêtre dès le tout premier instant de son existence, pousse Marie vers les hauteurs de Judée. C'est comme si elle disait à Jésus encore en elle, avec la bien-aimée du cantique, « Entraîne-moi sur tes pas, courons. » Elle va en hâte vers les montagnes de Judée, entraînée par l'ardeur du bien-aimé. Encore dans le sein de sa mère, le Christ vit déjà en son cœur cette passion qui lui fera dire plus tard « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais déjà qu'il soit allumé. » L'essentiel maintenant de l'épisode de la Visitation se situe dans la rencontre des deux enfants, Jésus et Jean le Baptiste. Lui aussi, qui est encore dans l'enclos du sein de sa propre mère. Et c'est par la voix de leur mère et leurs paroles que se révèle la puissance de l'Esprit-Saint à l'œuvre à ce moment-là. C'est déjà une petite Pentecôte, la Visitation. C'est une Pentecôte domestique, on pourrait dire. Le précurseur vit déjà sa vocation. C'est l'attente de la rencontre. Il attend la rencontre. Celui qu'il va désigner. Alors je m'excuse là, c'est intentionnellement que j'ai recours ici à un jeu de mots. Il y a l'attente de la rencontre, l'apostrophe, puis attente de la rencontre, mais il y a aussi l'attente de la rencontre où Moïse s'entretenait avec le Dieu invisible dans le désert de l'Exode. L'attente de la rencontre, c'est le sein d'Élisabeth et le sein de Marie. Voilà. Donc là, l'article « là », et puis « tente », l'attente de la réunion ou de la rencontre, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Exode, et qui est vraiment le lieu de la rencontre, où Dieu s'adresse à Moïse comme un homme parle avec son ami. Eh bien, il y a quelque chose de cela. Jean-Baptiste, à sa manière, encore dans le sein de sa mère, épouse en quelque sorte la vocation de Moïse. Il rencontre celui qu'on ne peut voir encore. Donc il attend cette rencontre, l'attente de la rencontre, avec celui qu'il attendra plus tard pendant des années dans le désert et qu'il désignera comme l'agneau au bord du Jourdain. Là encore, les paroles du Cantique des Cantiques peuvent bien nous éclairer. La bien-aimée qui dit « J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines ». C'est cette même impatience, c'est une sainte impatience qui habite déjà le cœur de l'enfant Jésus, qui se manifeste par la hâte de la Vierge, qui épouse en quelque sorte le désir ardent de son fils, lorsqu'elle se rend chez Élisabeth. Et le cœur du Rédempteur ne connaît pas de repos qu'il n'ait visité et révélé sa présence à son précurseur. Ne connaît pas de repos, faisant sienne peut-être les paroles de Isaïe, « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté et son salut comme une torche allumée. » Et un autre passage du Cantique, parlant du bien-aimé, « Voilà qu'il se tient derrière notre mur, il guette par la fenêtre, il épie par le treillis. » Il vient à la rencontre du précurseur. Il veut se laisser découvrir dans la discrétion. Il est caché. Il est caché dans le sein de la Vierge Marie. Donc ce récit de la Visitation, vous voyez, est extrêmement important. Il a une importance considérable d'un point de vue biblique. Nous allons continuer maintenant un petit peu à explorer d'autres thématiques. Ce récit de la Visitation est un carrefour charnière où se rencontrent en fait plusieurs thématiques bibliques importantes. Alors, Marie portant l'enfant en elle, montant en hâte vers la région de Jérusalem, parce que Enkarem, la demeure d'Élisabeth et de Zacharie, et c'est la banlieue de Jérusalem, littéralement. Donc elle monte de Nazareth à Jérusalem, dans les hauteurs. Eh bien, cela nous évoque l'Arche d'Alliance qui avait accompagné le peuple dans le désert pendant les 40 ans, cette sorte de tabernacle déjà avant l'heure, si on peut dire, renfermant la présence de Dieu avec les tables de la loi et un petit peu de la manne aussi, pour manifester que l'action de Dieu. Donc cette arche d'alliance, ce tabernacle de la présence de Dieu, une fois le peuple entré en terre promise, et puis bien longtemps après, cette arche d'alliance, elle monte solennellement à Jérusalem sur l'ordre de David et sous la conduite de David. Vous lirez ça dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 6. David qui est dans une véritable ivresse de joie et qui danse et tourne autour de l'arche, préfigurant ainsi l'exultation de Marie dans son Magnificat. En fait, le Magnificat est une réplique, réactualisation de cette joie ivre de David au moment où l'arche arrive à Jérusalem. Car Marie est considérée par la tradition de l'Église comme l'arche vivante d'alliance. Et elle porte justement en elle, comme l'arche naguère, elle porte la présence substantielle du Dieu d'Israël. Mais surtout, il faut relever que dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 6, avant que l'arche monte à Jérusalem, l'arche a séjourné pendant 3 mois dans la maison d'un nommé Obed-Edom. Pendant 3 mois. C'est ce qui est dit dans le livre de Samuel. David conduisit l'arche chez Obed-Edom de Gath. L'arche de Adonai, Adonai c'est un nom pour dire le nom sacré, c'est Dieu ou du Seigneur. L'arche du Seigneur demeura 3 mois chez Obed-Edom de Gath. Et Adonai bénit Obed-Edom et toute sa famille. Et alors tout cela se passe avant que l'arche ne monte finalement à Jérusalem. Or, qu'est-ce qu'il est dit à la fin du récit de la visitation que nous avons entendu aujourd'hui? Marie demeura environ 3 mois chez sa cousine, puis elle s'en retourna chez elle. Ce n'est pas neutre. Dans l'écriture inspirée, ce n'est pas un pur hasard, ce n'est pas une rencontre fortuite. Il y a une intention là-dedans. Il y a l'intention d'honorer Marie comme nouvelle arche d'alliance et qui va vraiment devenir son titre, même dans la Bible. Il est significatif que dans l'évocation de l'arche d'alliance dans le livre de l'Apocalypse, il y ait justement cette évocation au moment d'introduire la grande vision de la femme. Je vous cite, c'est la fin du chapitre 11 et qui ouvre sur le fameux chapitre 12 de l'Apocalypse. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel et son arche d'alliance apparut dans le temple. Et puis tout de suite après, pratiquement, un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Donc on ne peut pas faire plus clairement le lien entre Marie et l'arche d'alliance. Alors l'arche d'alliance, vue ici sous une forme de vision eschatologique par le voyant de l'Apocalypse, donc Jean, et qui voit donc l'étape importante, le signe grandiose. Voilà. Et on nous dit bien que cette femme, revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, couronnée de 12 étoiles, elle est enceinte, écrit dans les douleurs de l'enfantement, elle va mettre au monde l'enfant mâle qui va gouverner toutes choses avec son sceptre de fer. Donc il s'agit bien aussi d'une figure essentielle de la Vierge Marie et puis par extension de l'Église. Donc voilà pour la thématique de l'Arche d'Alliance et de sa montée à Jérusalem sous la conduite de David, ivre de joie, comme Marie dans son Magnificat. Alors il m'est arrivé aussi de dire à plusieurs reprises dans des enseignements ou dans des homilies ici que Marie était en quelque sorte comme le sacrement de la présence invisible de son Fils. Ici aussi, dans cet épisode, la voix de Marie est porteuse de l'action évangélisatrice de son enfant. Elle salue Élisabeth, mais Jean, le précurseur, reconnaît l'enfant à la voix de Marie. Donc il y a une dimension sacramentelle dans la présence de Marie et même dans la voix de Marie. C'est à la voix de Marie donc que le petit Jean tressaille d'allégresse et il reconnaît la venue de celui que les siècles attendaient. Le cantique, là aussi, se fait l'écho de ce passage, si on le veut. « Fais-moi entendre ta voix », dit le bien-aimé à la bien-aimée, cantique 2. Mais là, il semble que « Fais-moi entendre ta voix », on a plutôt l'impression là que c'est le petit à l'adresse de la bien-aimée Marie qui dit ça. « Fais-moi entendre ta voix pour que j'entende Jésus, pour que je perçoive Jésus ». Et c'est là que se situe une autre thématique biblique importante dans cet épisode, c'est la rencontre des deux enfants qui est le point d'arrivée des anciennes prophéties de l'Ancien Testament qui ont annoncé et salué la réalisation des promesses de loin, comme dit l'Épître aux Hébreux, tous les prophètes, ils ont salué la réalisation des promesses de loin. Or, Jean sera le dernier et le plus grand des prophètes, et même plus qu'un prophète, nous dit Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Car il verra et désignera celui qui doit venir. Et donc il y a cette thématique de charnière entre l'Ancien et le Nouveau, entre la première alliance et la nouvelle alliance. Toujours dans la foulée de ces thématiques, l'épisode de la Visitation, il faut bien le comprendre, c'est le passage d'un sacerdoce à l'autre. La lettre aux Hébreux nous enseigne, avec beaucoup de détails et d'intensité, sur le passage d'un sacerdoce à l'autre. Le passage du sacerdoce de la première alliance, sacerdoce d'Aaron, le descendant, tous les prêtres descendants d'Aaron, vers le nouveau sacerdoce selon Melchisédek, établissant le Christ comme grand prêtre éternel. Or, n'oublions pas que Jean le Baptiste, de par sa naissance, il est descendant d'Aaron, il est prêtre, il est Cohen, il est descendant d'Aaron, fils du prêtre Zacharie, et en plus, il nous est même dit que sa mère elle-même, Élisabeth, était de la descendance d'Aaron. Alors là, il y a quelque chose qui se passe. La première alliance, le sacerdoce, la première alliance est symbolisée ici par Jean-Baptiste et le passage qu'il va faire. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, est frappé de mutisme et il est empêché de bénir l'assemblée au temple. Vous trouvez ça au tout début de l'évangile de Luc. Cela symbolise la fin d'un sacerdoce et l'attente de l'avènement d'un nouveau sacerdoce. D'ailleurs, justement, Zacharie ne retrouvera la voix que lorsqu'il aura indiqué le nom de son fils, Jean et son nom. Yohanan, ça veut dire Dieu fait grâce. Précurseur du nouveau grand prêtre. Tu marcheras sur les traces à la face du Très-Haut, tu prépareras ses chemins. Là, il retrouve la voix, parce qu'il a compris. Il a compris la nature du sacerdoce ancien qui s'achemine vers le nouveau, avec son fils Jean-Baptiste, qui vient de venir au monde. Donc c'est un passage d'un sacerdoce à l'autre. Et donc, à la place de la voix empêchée de Zacharie, devenu muet, résonne symboliquement la voix d'Élisabeth remplie d'Esprit Saint, suscitée par le tressaillement de son enfant qui salue à travers elle la venue du nouveau grand prêtre. Le nouveau grand prêtre entre en scène dans l'épisode de la Visitation. Puis la voix exultante de Marie, la Vierge du Magnificat, qui exalte aussi ce sacerdoce nouveau. Dans notre épisode donc de la Visitation, le sacerdoce d'Aaron vient à la rencontre du sacerdoce de Melchisédek et il lui laisse la place. Comme dira plus tard Jean-Baptiste, il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Et c'est de nouveaux grands prêtres désormais qui parlent et qui exultent par le chant de sa mère. Réalisant l'ancienne prophétie, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en héros sauveur, sophonie, que nous avons entendu ce matin en première lecture. C'est le Seigneur lui-même qui est au milieu de toi. Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera pour son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. D'ailleurs, je note aussi que ce passage d'un sacerdoce à l'autre, signifié par la rencontre des deux enfants, va être encore plus fortement préfiguré et symbolisé dans l'évangile de Jean par la scène relatée par Jean, que je lis ici. Le lendemain, Jean le Baptiste, donc, se tenait là de nouveau avec deux de ses disciples qui étaient donc avec lui. Regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu ? » « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Les deux disciples symbolisent le passage. Ils quittent le premier sacerdoce d'Aaron, symbolisé par Jean-Baptiste, et rejoignent le sacerdoce définitif de Melchisédek, selon Melchisédek, donc de Jésus, le grand prêtre éternel définitif, qui les fait demeurer dans sa vraie demeure, qui est, quoi ? Le sein du Père. La vraie demeure de Jésus, c'est le sein du Père, où il demeure constamment, toujours tourné vers le sein du Père. Mais maintenant, et nous allons peu à peu nous acheminer vers la fin de notre enseignement, il y a une thématique biblique encore bien plus fondamentale et que j'ai gardée pour la fin, car elle nous plonge dans les origines. Comme le disait l'hymne que j'ai déjà cité tout à l'heure, Marie est la femme promise au début des âges. Lorsqu'Élisabeth s'écrie « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein », elle perçoit dans l'Esprit Saint, bien sûr ça la dépasse complètement, elle perçoit dans l'Esprit Saint que la très antique promesse qu'on appelle le protévangile, donc l'évangile vraiment initial, s'accomplit. C'est-à-dire là il s'agit du chapitre 3 de la Genèse, après le drame de la chute. Lorsque Dieu dit au serpent « Je mettrai une hostilité entre toi, le serpent, et entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête, tu l'atteindras au talon. » Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. La mère du précurseur salue et reconnaît en Marie, enceinte de Jésus, la descendance qui nous libère enfin de l'esclavage, de la corruption, du péché, de la mort et du démon. Alors elle s'écrie, cette parole qui est immense, vertigineuse. « Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Donc on ne peut pas séparer l'épisode de la visitation avec le protévangile, Genèse chapitre 3, verset 15. La promesse de la descendance, de la femme qui écrasera définitivement l'ennemi. Je mentionne simplement encore le Magnificat de la Vierge, qui lui est un véritable condensé de paroles scripturaires et que nous n'avons absolument pas le temps de voir en détail. Je me contente de dire qu'on y retrouve des accents justement de sophonie, du chapitre 3 que nous avons entendu en première lecture aujourd'hui, « Exulte, fille de Sion », etc. Beaucoup de passages des psaumes. Le prophète Isaïe aussi, « Je tressaille de joie dans le Seigneur ». Et là, c'est Jérusalem qui parle, donc le prophète Isaïe, « Je tressaille de joie dans le Seigneur ». Mais surtout le cantique d'Anne, la mère de Samuel, qui après la naissance de Samuel chante ce cantique, qui est le principal fondement du Magnificat, justement. On reconnaît aussi des extraits du livre de Job, surtout avec la thématique des puissants renversés de leur trône, sans compter la référence à Abraham, à la fin du Magnificat, qui nous ramène aux origines de l'histoire du salut et de la première alliance. Donc, en cette transition entre le mois de Marie et le mois du Sacré-Cœur, nous déchiffrons dans le cœur immaculé de Marie, en fait, comme le livre extrêmement précieux de la révélation du salut, de toutes les composantes du salut, de ce passage de la première à la nouvelle alliance et de son épanouissement total dans la Jérusalem céleste. Peut-être qu'on pourrait encore dire que d'un point de vue liturgique, ce n'est pas neutre que pour la solennité de l'Assomption, le 15 août, l'évangile est celui de la visitation. Comme si c'était une préfiguration de Marie qui ne va plus aller simplement vers les hauteurs de Judée, mais vers les hauteurs de la gloire, dans la gloire de la Trinité. Et qu'elle fera exulter non plus seulement le petit Jean-Baptiste, mais la cour céleste tout entière. L'Assomption de Marie, c'est la joie de la cour céleste tout entière, la joie des anges, la joie de tous les saints qui ont précédé Marie, les saints de la première alliance. Le ciel est transfiguré par son entrée dans la gloire. Donc la visitation a aussi cette dimension eschatologique de l'Assomption. Cœur immaculé de Marie, sois notre refuge. Cœur immaculé de Marie, sois notre refuge. Amen.